La joie, est-ce que la joie nous habite? Bonne question, hein? J'ai été interpellé dernièrement lors d'une prédication adressée au pasteur. Est-ce que la joie nous habite dans le ministère? Je suis reconnaissant de partager ces psaumes avec cet été, avec les uns et les autres. J'aimerais commencer par vous poser une question et je voudrais vous demander de vous lever la main. Si vous ou quelqu'un, votre entourage, de vos connaissances, souffre actuellement à cause de la maladie, à cause de douleurs physiques, à cause de difficultés relationnelles, de difficultés émotionnelles, de difficultés spirituelles. Qui a des personnes autour de lui qui souffrent? Il suffit de regarder, hein, on est tous plus ou moins touchés, pas mal de personnes, hein. Chacune des mains relevées montre, voilà, il y a la douleur, la souffrance, parfois les larmes, les préoccupations, les doutes. Peut-être la solitude, et ça fait mal lorsqu'on souffre. Pas simplement quand nous on souffre, parfois on souffre à cause des autres qui souffrent. Quand l'un de vos proches souffre. Avec mon épouse, ces dernières semaines, on a appris que plusieurs personnes touchées de notre entourage étaient touchées par un cancer. Et du coup, on les voyait, voilà. Bien évidemment, c'est des nouvelles qui sont pas réjouissantes. Et je me suis dit, voilà, comment, où plaçons-nous? Nos larmes. J'ai réalisé que dans mon propre cœur, parfois, il y a de la souffrance, il y a de la sécheresse. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est pas, je lisais pas spécifiquement parce que j'étais dépressif spirituel le livre. J'avais entendu du bien de cet auteur et je me suis reconnu dans l'un ou l'autre des chapitres. Je me suis dit oui, est-ce que ma joie, ma paix, mon repos est en Christ? Rappelez-vous ce qu'on avait vu dans Corinthiens, chapitre 12. Ça remonte déjà à quelques semaines, hein, dans 1 Corinthiens 12. Verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. En fait, bon, il y en a plusieurs qui ont levé la main. En fait, on le partage des fois avec des frères. On en voit l'un ou l'autre qui souffre, qui est dans des difficultés. Et en fait, l'Église est appelée à souffrir ensemble. Quand quelqu'un est impacté, c'est l'ensemble qui est impacté. Parce que l'Église est un endroit où, comme ce matin, on vient de le faire, hein, on loue Dieu ensemble, mais on prie Dieu aussi ensemble. Mais elle est aussi un endroit où on est appelé à pleurer ensemble. C'est pas si simple. Vous le verrez encore. On souffre ensemble. J'aime beaucoup me rappeler la grande histoire de Dieu avec les hommes. Ce récit du projet de Dieu pour l'humanité. La Bible nous dit qu'au début, ça a commencé avec ce jardin où il n'y avait pas de traces de souffrance et de difficultés. Et puis l'histoire se terminera dans un endroit où il n'y aura plus, non plus, ni de souffrance, ni de larmes. Mais pour le moment, on vit entre les deux. Entre ces deux moments. Une période marquée par cette attente, on l'a chantée dans quelques chants. Je me suis dit, des fois, quand j'ai entendu tous les chants encore qui ont été choisis, ben, ça résume peut-être tout le propos de ce matin. Mais on est dans ce moment rempli de larmes, entre le déjà mais le pas encore. Lorsqu'on traverse des moments difficiles, quand on souffre, on n'a pas besoin que quelqu'un nous fasse la morale, qu'on nous donne des leçons, mais on a plutôt besoin de quelqu'un qui s'assoit à nos côtés, qui prend le temps de nous écouter. Quelqu'un qui nous prend peut-être dans ses bras ou qui nous prend nos mains. Peut-être quelqu'un qui prie pour nous. Quelqu'un qui comprend peut-être parce qu'il est passé par là. Et encore, c'est toujours différent. Le titre du psaume ce matin, c'est le psaume 102. Psaume 102, le verset 1 qui dit « Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il présente sa requête devant l'Éternel. » Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il présente sa requête devant l'Éternel. C'est un psaume de quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile et que vous êtes peut-être en train de vivre. Ce matin, j'aimerais nous proposer quelque chose d'assez simple. Pendant qu'on va lire ensemble ce psaume 102, imaginez que l'auteur de ce psaume est assis à côté de vous, qu'il vous le dit, qu'il vous le lit, et qu'il prie en fait quelque part avec vous pour vous encourager. Et ma prière est vraiment, et ma prière aussi pour moi, est qu'au travers de ce psaume, nous puissions être encouragés, mais bien plus qu'on sent que Dieu nous encourage. Psaume 102, je crois que c'est une parole aussi pour nous ce matin. C'est la parole de Dieu. Alors je vous propose de prendre ce psaume 102. Je relis au verset 1, prière d'un malheureux. Lorsqu'il est abattu et qu'il présente sa requête devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Tends vers moi ton oreille au jour où je crie. Hâte-toi de me répondre. Car mes jours s'évanouissent en fumée, et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé, et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chat-huant des ruines. Je veille et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Tout le jour, mes ennemis me déshonorent, et c'est par moi que jurent mes adversaires frénétiques. Je mange de la cendre au lieu du pain, et je mêle des larmes à ma boisson. À cause de ta fureur et de ton indignation, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre qui s'étend, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu sièges à perpétuité, et ton souvenir dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car le temps de lui faire grâce, le moment fixé est arrivé. Car tes serviteurs en affectionnent les pierres, ils prennent en pitié sa poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtit Sion, il se montre dans sa gloire. Il tourne la face vers la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et les peuples qui sera créé louera l'Éternel. Car il se penche du haut de son lieu saint, des cieux l'Éternel regarde sur la terre, pour écouter les soupirs du prisonnier, pour délivrer ceux qui sont en danger de mort, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et sa louange dans Jérusalem. Quand les peuples se réuniront ensemble et les royaumes pour rendre un culte à l'Éternel. Il a fait fléchir ma force en chemin, abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent d'âge en âge. Tu as autrefois fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront pas. Les fils de tes serviteurs auront une demeure, et leur descendance s'affirmera devant toi. Quel beau passage. Je voudrais prier simplement. Seigneur, merci pour ta parole que tu veux nous adresser aussi ce matin. Je prie vraiment, on confesse qu'on a besoin de toi, on a besoin d'être éclairé par toi, on a besoin d'être nourri par toi, on a besoin de ton Esprit Saint aussi pour comprendre ton Écriture, ta parole. Merci parce que tu es celui qui garde son alliance envers les hommes. Seigneur, je prie pour chacun et chacune que tu viennes nous visiter, nous encourager et nous restaurer. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Vous avez remarqué, hein, le psaume 102, c'est une prière en poésie. Si je devais donner un titre à mon psaume, je dirais « Des larmes au chant » ou « Des larmes à l'adoration ». De la détresse à la louange, je ne sais pas, mais voilà, « Des larmes au chant ». Alors ce psaume, il a trois strophes, trois parties. Regardez, d'abord, le psalmiste parle de sa souffrance. Des versets 2 à 12, il parle de sa souffrance. Ensuite, dans la deuxième strophe, il va parler de Dieu. Et enfin, il va mettre sa souffrance et Dieu ensemble. Pour terminer avec une strophe qui résume tout cela. Alors, des larmes au chant. La souffrance, Dieu et la souffrance et Dieu ensemble. Voilà la prédication tout simplement ce matin. D'abord, on voit combien l'auteur souhaite parler de sa souffrance. J'ai donné comme titre à cette première partie, hein, « Crie à Dieu même avec tes larmes ». 11 versets sur 29 versets que compte ce psaume, hein, 11 sur 29, l'auteur utilise 11 versets pour parler de sa douleur, de sa tristesse. Il ne minimise pas sa situation, sa souffrance. Et quand il parle, hein, on l'entend, hein, je sais pas, je pense qu'on l'entend, sa douleur, sa souffrance. Quand il parle, il donne des mots. Quelque part aussi à notre douleur, à notre souffrance, peut-être qu'il y a l'une ou l'autre phrase, l'un ou l'autre mot, où vous dites « ça me rejoint, ça me parle ». Peut-être que ça nous interpelle, ça vient nous rejoindre dans nos propres difficultés, ou peut-être dans la difficulté de quelqu'un d'autre. Laissons celui qui a écrit ce texte nous parler. Versets 2 et 3, « Éternel, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. » On entend l'urgence, hein. Un appel au secours, on entend ce SOS. L'auteur est quelque part peut-être à bout de nerfs. Il n'a pas besoin du médecin pour une énième consultation, mais il veut que Dieu intervienne. Il veut que Dieu le sauve. Il y a presque maintenant, c'est presque l'immédiat. Il a besoin quelque part de ressentir La présence et l'action de Dieu. C'est maintenant. La souffrance, c'est trop. Seigneur, écoute-moi. Un cri à Dieu. Il ne veut pas rester seul dans sa souffrance. Seigneur, Seigneur, prête attention à ma situation. Quelles sont les raisons, hein, versets 4 et 6 ? Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain, mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. La souffrance est telle qu'il l'exprime, qu'on a l'impression qu'il se replie sur lui. Il ne peut pas continuer, sa douleur c'est trop difficile. On a l'impression, il décrit à la fois, d'ailleurs il parle d'une souffrance émotionnelle, hein. Il a le cœur frappé, il est déprimé, on a l'impression que ça se dessèche, mes jours m'échappent. Une souffrance émotionnelle, on a aussi une souffrance physique, hein, qu'il en oublie de manger, il perd du poids, il y a le côté éphémère, fragile de la vie qui ressort, il y a des larmes importantes, ça fait du mal, son corps souffre, il souffre et il l'admet. En fait, le psalmiste, il est en train de simplement exprimer la réalité telle qu'il la vit, comme il l'aperçoit. Pas toujours facile, hein. C'est pas facile d'admettre sa douleur. Parfois, on peut nous faire encore croire le contraire, hein, qu'il y a des clichés, des stéréotypes. Un homme, ça doit pas pleurer, ça doit pas s'afficher. Je sais que nous, on était dans une famille un peu protestante et voilà, les émotions, on les garde pour soi. Les vrais hommes, ça pleure pas, on se cache, on serre les dents, on fait comme si. Parfois, on peut se dire aussi, ma douleur, mais elle est rien comparée de un tel ou un tel. Oh là là, lui, il a des raisons de se plaindre, mais moi, je vais pas en faire tout un plat. On est peut-être aussi dans cette réflexion-là. On pense peut-être que ravaler ses larmes, ravaler sa douleur, c'est faire preuve de foi, d'être fort spirituellement. Il faut surtout pas, voilà, non, mais Dieu, il est tout puissant, Dieu, il agit. Cacher sa douleur, c'est pas un signe de foi, au contraire, on le voit. C'est pas un signe de force. Il n'y a pas ce genre de logique dans le psaume 102. Dans la parole de Dieu, d'ailleurs, de façon générale, au contraire. On entend un homme qui prend ses larmes au sérieux et il les expose. Sa situation est sérieuse, ses souffrances sont sérieuses et il les exprime, il ne les cache pas. Mes amis, les larmes ont leur place devant Dieu. Pas de honte à avoir à pleurer, à souffrir, à être pas bien dans sa peau. Je viens de le rappeler en intro, hein. Si un membre souffre, toute l'Église souffre avec lui. Mais cette situation-là, de dire que toute l'Église souffre, ça veut dire qu'on admet qu'on puisse souffrir et qu'on puisse voir la souffrance sur le visage de l'un ou l'autre. Ça veut dire aussi qu'on doit s'ouvrir les uns aux autres. C'est pas facile. Vrai ou pas, je sais pas. Enfin, moi, je sais que c'est pas facile de s'ouvrir aux autres. C'est encore plus vrai quand la douleur ne se voit pas, parce que voilà, on sait, il y a des douleurs qu'on sait, quand on sait qu'on est atteint d'une maladie. Il y a des douleurs émotionnelles, des douleurs qu'on peut être très fort à cacher. Je ne peux pas le voir, non plus si je ne te demande pas, si je ne m'intéresse pas à toi. Alors, comme chrétiens, posons-nous vraiment cette question, comment allons-nous vraiment ? Est-ce qu'on laisse du temps ? Est-ce qu'on laisse de l'espace ? Est-ce qu'on laisse de l'écoute ? Sans jugement, de laisser la place aussi à ce qui nous tracasse, à ce qui nous dérange, à ce qui nous fait mal. Je disais, hein, sur 29 versets, 11 versets expriment une souffrance, une détresse. L'auteur va parler plus tard, dans la deuxième partie du psaume, de Dieu, mais là, pour l'instant, il n'est pas pressé. Il prend ses larmes et ses souffrances au sérieux. Crie à Dieu, même avec des larmes. Mes frères et sœurs, je pense que c'est déjà un premier enseignement pour nous, prenons notre souffrance, notre douleur au sérieux, partageons-la, partageons notre douleur aux autres. C'est pas doit dire qu'on doit la déballer à chacun, mais n'hésitons pas à nous ouvrir aux uns et aux autres, à demander de l'aide. Parce que si on peut pas le faire ici à l'Église, entre frères et sœurs, où pourrait-on le faire correctement? Poursuit, hein, versets 7 et 9. Je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chat-huant des ruines, je veille, je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Tout le jour, mes ennemis me déshonorent, et c'est par moi que jurent mes adversaires frénétiques. Vous voyez un peu l'image, on reste là-dedans. Hein. Il y a la maladie, il y a la douleur, qui peuvent même nous voler un peu le sommeil, n'est-ce pas ? La nuit, on est encore plus seul. La souffrance sociale, ce mur invisible qui nous isole des uns et des autres. L'auteur a choisi ici des images assez fortes, on a peut-être du mal à les voir, mais voilà, il parle d'animaux qui sont d'ailleurs, bibliquement parlant, impurs, des animaux qui sont reclus dans un lieu désert, sans personne. Donc c'est ça aussi la souffrance, c'est on est seul. Et pourtant on sent qu'il espère que quelqu'un l'écoute, qu'il espère un ami. Parce que le plus difficile, bien souvent, c'est pas toujours la douleur en elle-même, mais c'est d'être seul avec notre douleur. Ce sentiment de rester seul dans ma souffrance et dans mes difficultés. Que personne nous comprend. Vous connaissez ce sentiment ? Je pense, hein. Peut-être au milieu des autres, on a l'impression que oh, mais personne ne peut nous comprendre. Ce sont nos larmes, et c'est vrai, elles sont souvent seules, et on le voit dans ces versets, il y a cette solitude. Il faut dire aussi que quand tout va bien, quand on est en bonne santé, quand on traverse une saison paisible dans la vie, on ne sait pas toujours comment se comporter avec quelqu'un qui souffre à côté de nous. Moi, le nombre de fois où je ne sais pas comment réagir. On n'a pas la situation, la difficulté. On est déjà passé par là aussi. On se demande qu'est-ce que je peux bien faire pour lui ? Qu'est-ce que je peux bien lui dire ? Je crois que on n'a pas besoin de dire souvent grand-chose, simplement d'écouter, de rester avec la personne, de prier éventuellement, mais en tout cas ne pas fuir le sujet de la douleur et des difficultés. En tout cas, ce psaume l'exprime très bien. Il présente cette détresse. Mais reconnaissons aussi que c'est, je le disais tout à l'heure, hein, c'est souvent peut-être nous qui fermons la porte aux autres. On se dit, ma douleur, je la garde pour moi. C'est privé. On sait garder les apparences, on sait masquer la réalité. Mais le résultat, on ne laisse pas aux autres, et peut-être qu'on ne laisse pas à Dieu, l'occasion de nous aider. Personne ne peut prendre soin de nous si nous restions seuls dans notre désert. C'est vrai, parfois on veut juste la paix, on veut rester tranquille, et c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça. Mais la parole de Dieu nous encourage à nous rappeler qu'on fait partie d'un corps, qu'on n'est pas seul. Ici à Wittenheim, Dieu nous a donné l'Église, des frères et des sœurs, d'ailleurs de toute génération, peut-être de toute culture aussi, pour nous aider. Alors ouvrons la porte à cette aide. Je mange, verset 10, de la cendre au lieu du pain, et je mêle des larmes à ma boisson. Quand j'ai un peu cette image-là de cendre, je pense à Job, hein, le livre de Job qu'on connaît un peu, de cet homme qui souffre dans son corps, dans ses pensées, dans sa détresse, qui est recouvert de cendre, qui est assis dans la poussière, en signe de deuil, de détresse. Mais ici, pour le psalmiste, c'est pas juste les cendres comme un symbole, mais elles sont dans son assiette. Ça semble amer, elles sont dans son verre. Sa souffrance, il ne fait pas que la porter, il la mange, il la boit. Vous voyez l'effet de la souffrance, là, elle pénètre tout. On sent vraiment qu'il y a tout son corps qui exprime la souffrance des larmes et des difficultés. C'est vrai que les souffrances peuvent nous impacter partout. Et notre corps dans son entier. Manger, boire, les choses banales de la vie perd son goût, sa saveur. Quand on est touché par le deuil, quand une blessure nous déchire, tout devient terne autour de nous, comme si le monde avait perdu sa couleur, comme si la vie avait perdu sa saveur. On sent cela dans ce psaume que voilà. Verset 11, il exprime même « À cause de ta fureur et de ton indignation, car tu m'as soulevé et jeté au loin. » On voit que l'auteur de ce psaume cherche une explication. Et la seule qui semble donner, c'est de se dire « Dieu doit être en colère contre moi, Dieu doit me reprocher quelque chose. » Et c'est vrai qu'on voit d'autres psaumes où le psalmiste évoque que sa souffrance est liée clairement à un péché, à une faute, à une désobéissance à Dieu. Mais là, c'est pas ce qui est décrit, mais il se sent accablé. Il se dit « Mais j'ai dû provoquer quelque part la colère de Dieu. » Mais là, on regarde un peu autour de nous, et c'est vrai, on vit dans ce monde de la chute, on est marqué par la malédiction du péché, de la souffrance et des larmes, etc. Un monde où tout est brisé. Et dans ce monde, un peu peut-être comme l'auteur là, on a l'impression d'être soulevé, projeté au loin, perdu, on ne sait plus trop où on en est, abandonné. Verset 12, un peu comme un résumé, « Mes jours sont comme l'ombre qui s'étend et je me dessèche comme l'herbe. » Il termine comme il a commencé. Au début, c'était son cœur qui était sec. Là, c'est carrément, c'est tout son corps. On sent vraiment, chez ce psalmiste, le désespoir. Quand la vie semble doucement s'éteindre, quand il ne semble plus y avoir d'avenir, on a la sensation qu'on va disparaître. 11 versets de souffrance, de larmes, de cris. Et là, on peut imaginer, c'est pour ça que je vous disais, comme s'il était assis à côté de vous, le psalmiste. Là. Il sait ce que c'est, il connaît ce qu'on peut peut-être traverser. Il connaît notre douleur physique, notre douleur émotionnelle, peut-être notre douleur relationnelle, sociale. On l'évoque, hein, il a l'air seul. Il connaît la tristesse, il connaît la vraie vie. Ça fait mal et c'est terrible. Et on a raison de pleurer. Et on aimerait pleurer avec vous. Ce psaume, il est d'une franchise stupéfiante, on pourrait dire. Parfois, on peut penser, les gens peut-être autour de nous le pensent, ou on pense que la Bible ou la foi chrétienne nous dépeint voilà, un monde un peu idéal, loin des épreuves, loin des journées grises du quotidien. Mais non, la Bible n'ignore pas la souffrance et les difficultés. Elle ne la maquille pas non plus, elle ne la minimise pas, elle en parle en vrai. Les larmes et les émotions ici, c'est la réalité que le psalmiste souhaite nous laisser. Pour beaucoup, la souffrance, la réponse à la souffrance, c'est ça. Voilà, on va rester dans son coin, on va s'isoler un certain temps, on va prendre un médicament, on va prendre du repos, on va attendre que ça passe. On voudrait peut-être juste revenir comme avant. Mais le psalmiste, il ne reste pas avec cette souffrance. 11 versets, mais il ne s'arrête pas là. Il va commencer à parler de Dieu. C'est ma deuxième partie. Regarde à Dieu, il est à l'œuvre. Verset 13, hein. Mais toi, éternel, tu sièges à perpétuité et ton souvenir dure de génération en génération. L'auteur a pris sa souffrance au sérieux. Il n'a pas minimisé ses larmes, il n'a pas ignoré son désespoir. Il a dit la vérité et puis il y a ce mot « mais ». Mais Dieu, ce psaume est honnête. Il nous apprend à parler à Dieu de nos véritables sentiments, de notre douleur brute. Mais le psalmiste nous encourage à lever les yeux, à prononcer ce mot qui change notre histoire. Mais Dieu. La Bible ne dit pas que nous n'allons pas souffrir, mais elle nous dit toujours qu'il y a un mais Dieu. Et je crois que l'erreur ou notre problème souvent dans la souffrance, c'est d'oublier de se dire ces mots-là. Mais Dieu. Mais toi, éternel. Moi, je ne suis que d'une vapeur. Mes jours, une ombre qui s'étend, mon corps qui se dessèche comme l'air. Mais toi, tu es l'éternel. Celui qui ne change pas, c'est ce que nous dit ce verset. Hein. Celui qui connaît tout, celui qui voit tout, celui qui connaît ma souffrance, celui qui voit ta souffrance. Celui de tous les siècles des siècles. Hein. Ma douleur, elle fait partie de cet immense tableau de l'histoire, entre l'Éden et la restauration, la nouvelle création. Et Dieu voit ce tableau. Là, le psalmiste veut nous aider à élargir notre vision et nous rappeler que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que Dieu est majestueux, qu'il transcende le temps, qu'il est... Moi, j'aime beaucoup cette image, c'est toujours quelque chose qui m'interpelle. Il est assis sur son trône. Ça veut dire qu'il est stable, il est inébranlable, il n'est pas en train de s'agiter parce que le monde et l'histoire du monde lui échappent. On l'a chanté, hein, et ça change tout. Mais Dieu, ça change tout. Je poursuis, versets 14 à 17. « Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car le temps de lui faire grâce, le moment fixé est arrivé, car tes serviteurs en affectionnent les pierres, ils prennent en pitié sa poussière, alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtit Sion, il se montre dans sa gloire. » Notre Dieu est grand et immense, il n'est pas immobile, il est en train d'agir, il se lève, il fait grâce, il rebâtit. On voit qu'il y a vraiment une action de la part de Dieu, il y a son plan de salut qui se déroule. C'est pas juste une réponse à notre souffrance physique, mais on voit vraiment qu'il y a une réponse à la souffrance éternelle, à cette rupture entre Dieu et l'humanité. Quand on souffre, c'est vrai, c'est difficile de lever les yeux, de regarder plus haut. N'est-ce pas? Mais ici, le psalmiste nous invite. Prends tes larmes au sérieux, mais prends Dieu au sérieux. Regarde à Dieu. Ce que je trouve aussi fort dans ces versets, en prenant le temps de les étudier, c'est qu'il passe, l'auteur passe de sa douleur qui semble personnelle à une souffrance un peu, ou à une attente qui soit collective. Je m'explique, là, le texte, il parle de Sion, tu auras compassion de Sion. En fait, c'est tu auras compassion de Jérusalem. En fait, probablement que ce psaume a été écrit lorsque voilà Jérusalem était en très mauvais état, peut-être détruit, peut-être pillé, etc. Jérusalem, c'est le lieu où, par excellence dans l'Ancien Testament, où Dieu marque sa présence, où il y avait le temple, où sa gloire habite, où il y avait la communion entre le peuple de Dieu et lui. Et du coup, voilà, quand l'auteur il dit, ben voilà, il va y avoir une restauration de ce Sion qui est aujourd'hui abîmé. Et on le sait que dans l'histoire de la Bible, Jérusalem, c'est plus qu'une ville qui doit être restaurée. Dans le Nouveau Testament, Sion, il est question de la cité céleste, de la maison de Dieu, de la nouvelle Jérusalem, de la demeure sainte, on pourrait dire du ce qu'on appelle le paradis, quoi, on pourrait dire ça, ou l'endroit où tout genou fléchira, où il y aura quoi, toute souffrance et toute larmes qui auront été séchées ou n'auront plus sa place, où Dieu recevra la gloire pour toujours. Donc là, le psalmiste est en train de nous montrer, il y aura la restauration à venir. Levez les yeux. C'est vrai que dans la souffrance, Dieu nous paraît loin, distant, grand, froid. On se sent loin. Je sais que des fois on dit, ben, Seigneur, prie pour que tu sois présent à côté de lui. Mais il est présent à côté de nous, mais c'est nous qui ne le voyons pas. Il est là. Je trouve fort, c'est que l'auteur emploie aussi un terme précis, il dit l'Éternel, Yahweh, en hébreu. Et en fait, quand il dit ça, l'Éternel, Yahweh, c'est le Dieu de l'alliance, c'est le Dieu de l'engagement, le Dieu de la promesse, le Dieu relationnel, le Dieu qui s'engage, le Dieu qui fait grâce, et on l'entend, le Dieu qui se lève et qui agit en son temps, le Dieu qui n'oublie pas ses engagements. Oui, il est plus grand que nous, mais le Dieu qui s'approche, le Dieu qui tient promesse, le Dieu qui va restaurer, le Dieu qui relève sa cité et qui restaure son peuple. C'est ce qu'on voit dans ces versets. Hein. Verset 18. Dieu tourne sa face vers la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Verset 18, c'est un verset à noter sur un post-it. Il est attentif à la prière de celui qu'on a dépouillé, il ne méprise pas sa prière, dit second 21. Belle parole, hein? Accrochez-le tout à l'heure peut-être sur le frigo. Oui, Dieu est grand, majestueux, glorieux, mais cela ne veut pas dire qu'il ne se soucie pas de vous. Il est l'Éternel, on fait partie de son plan. Il tourne la face vers la prière du misérable. Il écoute attentivement. Il n'est pas en train de, pardonnez-moi l'image, hein, mais il n'est pas en train de regarder le téléphone pendant que vous êtes en train de lui parler. Je ne sais pas si vous voyez, ou regardez ses mails. Moi, il m'arrive de faire ça, je check mes mails pendant que ma femme est en train de me parler de situations compliquées. Et d'un coup, elle arrête de parler, je réalise qu'il y a un problème. Dieu, pas, il n'est pas comme ça, il écoute. Il tourne sa face vers nous. Dieu se soucie de nous, il nous aime, il nous écoute. Ces 11 versets de larmes que le psalmiste vient de dire, il les entend. Et pour preuve, je crois que j'ai le verset, il est affiché, psaume 56, verset 9, il parle de Dieu. Hein. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Dieu prend note de chaque souffrance qu'on est en train de traverser. Il compte nos pas fatigués, il les recueille, il les écrit dans son livre. Le Dieu le plus grand, le plus majestueux, t'accorde son attention. Pas distrait, il n'est pas indifférent, il n'en manque jamais une. Je crois que c'est une parole qu'on devrait réfléchir lorsqu'on passe par la souffrance et la difficulté. C'est tout à fait ok de prier avec des larmes, c'est tout à fait ok de pleurer devant lui, et en même temps nous sommes appelés à lever les yeux vers Dieu qui nous entend. Et là l'auteur, tout doucement, va commencer à mettre les deux ensemble. Il a parlé de sa souffrance, il a parlé de Dieu et de son œuvre, et il va tout doucement, tout au long du reste du psaume, et pour arriver à la dernière strophe, il va mettre sa souffrance et Dieu ensemble. Regardez les versets 19 à 23. Que cela soit écrit pour la génération future et le peuple qui sera créé louera l'Éternel. Car il se penche du haut de son lieu saint, des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les soupirs du prisonnier, pour délivrer ceux qui sont en danger de mort, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et sa louange dans Jérusalem. Quand les peuples se réuniront ensemble et les royaumes pour rendre un culte à l'Éternel. On le voit, hein, Dieu n'observe pas de loin la souffrance. Pas sans émotion, pas sans intention, il regarde avec amour. Il a la résolution d'intervenir. C'est un sauveur. Et on le voit dans ce que j'exprimais tout à l'heure, hein, dans ces passages, dans mon titre, des larmes au chant. Parfois Dieu nous délivre de nos souffrances, parfois pas tout de suite, mais il demeure celui qui vient à notre secours, celui qui veut relever, celui qui relève. Il est entré dans notre histoire, de l'humanité. Dieu est intervenu dans cette grande histoire, entre cette histoire qui a commencé dans un jardin, qui se termine dans ce nouveau jardin. On n'est pas coincé dans des ruines. On n'est pas coincé dans nos larmes aujourd'hui. Parce que Dieu, maintenant, il est venu, il est intervenu à ce moment-là de l'histoire pour rebâtir cette nouvelle Jérusalem. Nous ne sommes pas abandonnés, mes amis. Il prend nos mains et veut nous emmener vers cette nouvelle, sur cette ville nouvelle, là où les peuples sont rassemblés. C'est Dieu qui tient nos mains. Alors que même nous avons des larmes aux yeux, on le sent hein, dans ce psaume, commence à venir la gloire, le chant, l'adoration. Nous pouvons publier sa louange. Quelques versets qui restent, hein, les derniers versets, les dernières strophes sont les plus beaux peut-être qui restent. Verset, la troisième partie, « Prie Dieu avec confiance jusqu'au chant ». Les six derniers versets semblent comme un résumé de l'ensemble de ce psaume. On retrouve les mêmes idées des versets 24 à 29. Il parle de la souffrance d'abord, verset 24, ensuite de Dieu, verset 25 à 28, et finalement cette louange et l'espoir pour l'avenir, verset 29. Je relis. Il a fait fléchir ma force en chemin, a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi dont les années durent d'un âge, tu as fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux y périront, mais toi, tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Les fils de tes serviteurs auront une demeure et leur descendance s'affermira devant toi. On voit hein, cela. La souffrance, verset 24, Dieu qui il est, son, voilà, qui bouge pas, celui qui a fondé, celui qui dure d'âge en âge, et cette restauration, cette souffrance et Dieu ensemble, cette espérance, cette Jérusalem nouvelle, cette demeure, cette descendance, cette vie éternelle qui se prépare. Mais dans ces versets, il y a quelque chose de plus précieux encore, de caché. Quelque chose qui change tout, un trésor caché. On l'a souvent comme note dans vos Bibles. Parce que, je lis aussi Hébreux ces derniers temps, mais dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, l'auteur va citer ce psaume. Enfin, va citer deux versets de ce psaume. Et il va associer ce psaume à Jésus. Il va associer ces mots à Jésus. Est-ce qu'il a raison ? Oh oui. Verset 24, « Il a abrégé mes jours. » Dans la bouche des apôtres, ces mots pointent vraiment vers Christ. À qui on a ôté la vie sur la croix. Et juste après viennent les versets 26 et 28 qui sont cités dans Hébreu. Je cite juste Hébreu. Hein. C'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux y disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les enrouleras comme un manteau, ils seront remplacés comme un vêtement, mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. Et quand Hébreu cite ces mots, quand Hébreu cite ce psaume, il le met dans la bouche de Dieu, mais il parle de Jésus. Et ça change tout. Le psaume 102, en fait, nous parle de Jésus. Alors c'est vrai qu'en première lecture, et c'est une juste lecture, semble uniquement la prière d'un croyant qui est désespéré, qui souffre, et qui demande à Dieu d'intervenir pour le salut. Et qui trouve réponse dans la restauration et qui voit que Dieu va restaurer. Mais c'est un cri qui se retrouve dans la souffrance de Jésus. Jésus a connu les larmes dans ses yeux. Il a eu ses jours abrégés. Mais Dieu a raccourci cette souffrance par la résurrection et la victoire sur la croix. Et par sa victoire, Dieu a aussi abrégé notre souffrance, nos jours de souffrance. Un collègue l'a dit ainsi en commentant ce psaume, il a dit « On a des larmes dans nos yeux, mais de la louange sur nos lèvres, parce que la réponse de Dieu à notre souffrance est la souffrance et la victoire de Jésus-Christ. » On n'a pas choisi de souffrir. Enfin, je sais pas vous, hein. Quand on traverse des épreuves, on choisit pas. Je sais pas, vous n'êtes pas devenu volontaire, comme on est volontaire pour faire des fois des tests. Non, on n'est pas volontaire pour souffrir. Mais rappelez-vous, Jésus a choisi volontairement de souffrir pour moi, pour toi. Et là, j'ai en tête Ésaïe 53 hein, qu'on cite, et là, j'introduis la scène qu'on va partager. Simplement, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Lui, il était blessé à cause de nos transgressions. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Voilà, tout le psaume 53. Ésaïe 53, pardon. Hébreux 5, 7, par exemple, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point. Jésus-Christ a pris au sérieux notre souffrance. Il a été sérieusement Dieu. Il a été au cœur de la souffrance. Il a pris notre humanité. Il a tout pris sur lui. On l'a chanté, hein. Afin que quoi, nous ne périssons pas. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Les souffrances de Christ. Nos souffrances. Dieu. C'est la croix de Jésus-Christ, hein. Les deux sont liés à cet endroit-là. La souffrance et Dieu sont liés pour toujours. Jésus n'a pas été juste un bel exemple inspirant, mais il est venu pour nous sauver, nous délivrer, nous amener, où ça ? À la Jérusalem céleste, à ce Sion qu'il est en train de restaurer. Et on le voit dans ce psaume, je trouve c'est extraordinaire. On a vu que ce psaume parle du rétablissement de Sion et de cette adoration future de toutes les nations. Est-ce qu'on n'a pas écho en Jésus-Christ de ça ? Il a porté notre souffrance, mais il a été victorieux pour que nous puissions chanter à sa gloire. Des larmes au chant. Alors un jour, je termine, hein, quand nous quitterons ce temps marqué par les larmes, on est dans ce temps-là, hein, entre les deux, quand on quittera ce temps marqué par les larmes, nous verrons notre Seigneur assis, régnant sur son trône, à perpétuité. Et là, ses mains percées, où il va essuyer nos larmes, pour toujours. Et qu'est-ce qui va rester ? Un chant à sa gloire, un chant de reconnaissance, la louange sur nos lèvres, la gloire de notre Seigneur. Et c'est ce qui partage ce psalmiste dans le psaume 102. Alors pour conclure, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, je vous encourage, soyons honnêtes avec notre souffrance, ne cachons pas nos larmes. Et en même temps, fixons notre regard sur ce Dieu majestueux, sur ce Dieu qui règne, qui a ce plan entre ses mains. Il écoute, il voit, il compte nos pas, il recueille nos larmes. Et un jour, il les effacera. Mais jusque-là, on a besoin de nous encourager à mettre notre foi, notre confiance dans l'œuvre de notre Seigneur. Alors, c'est vrai, par la grâce de Dieu, on peut avoir des larmes aux yeux, on peut avoir des larmes dans les yeux, on peut avoir de la souffrance, mais on peut aussi nous encourager à avoir un chant de louange pour cette restauration et cette paix que le Seigneur veut nous donner. Amen.